Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son ministère, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous reprenons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc.
Dans un premier temps, nous allons écouter la lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Ensuite, Yann s'entretiendra avec Alain, afin d'en tirer les leçons les plus importantes.
Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par quatre hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et, par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. « Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors, il déclara au paralysé « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard. » et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil !»
Merci Sandra et bienvenue Alain. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Alain, nous avons suivi votre étude sur l'Évangile de Marc, chapitre 1, quelques émissions auparavant. Et aujourd'hui, nous entamons le chapitre 2 de ce livre. Mais avant de commencer, pouvez-vous nous rappeler ce que nous avons appris dans le chapitre 1?
Certainement. Selon Marc, l'auteur de l'Évangile, le message de Jésus constitue une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle car en Jésus, les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament commencent à s'accomplir. Une bonne nouvelle parce que Jésus a le pouvoir de guérir les malades et peut délivrer ceux qui demeurent sous l'emprise de démons et purifier les personnes impures.
Et dès le début du chapitre 2, l'évangéliste nous présente un homme paralysé, amené à Jésus par ses amis, dans l'attente que ce dernier le guérisse.
Oui, beaucoup de gens présents parmi la foule en ce jour-là s'attendaient à voir un tel miracle s'exécuter tout de suite.
Mais quelle surprise alors de constater qu'en s'adressant à cet homme paralysé, Jésus dit « Tes péchés te sont pardonnés ».
Il est vrai que ces paroles de Jésus étonnent et nous devons alors nous demander ce qu'il désire nous enseigner.
Qu'est-ce que Jésus veut alors nous apprendre à travers cet incident?
Il nous faut retenir deux leçons. Tout d'abord, Jésus peut nous pardonner nos péchés, il en a le droit et l'autorité. Ensuite, notre besoin le plus important et urgent devant Dieu est justement de recevoir le pardon de nos péchés.
Nous apprenons ensuite que les spécialistes de la loi se mirent à murmurer entre eux. Ils ne semblent pas d'accord avec Jésus.
Oui, parce que selon eux, seul Dieu peut pardonner les péchés. Pour eux, le fait que Jésus prétende pouvoir faire ce que Dieu seul a le droit de faire est blasphématoire. D'une certaine manière, ils ont raison, car il est vrai qu'un homme qui prend la place de Dieu est un blasphémateur.
Qu'en conclure alors?
Deux possibilités se présentent à nous. Soit Jésus est fou ou prétentieux, soit il est Dieu devenu homme, Dieu parmi nous.
Et comment alors trancher cette question?
C'est à ce moment-là que Jésus accomplit un miracle qu'aucun homme auparavant n'avait jamais pu accomplir. Il ordonna à l'homme paralysé « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Et aussitôt, l'homme se leva et commença à marcher normalement et à bondir.
Seul Dieu peut accomplir de choses pareilles.
C'est exact. Et ce miracle n'aurait jamais eu lieu si Jésus avait été un blasphémateur. Les miracles de Jésus confirment la véracité de ses paroles. Nous devons en conclure qu'en effet, Jésus possède bien l'autorité pour pouvoir pardonner nos péchés, péchés qui offensent tant le Seigneur.
Merci Alain. Nous allons aborder à présent la deuxième leçon que vous vouliez souligner, à savoir que notre besoin le plus pressant est justement celui de notre péché.
Oui, mettons-nous à la place de cet homme paralysé et de ses amis. Quelle serait votre préoccupation première?
La paralysie est une condition très dure à supporter. Je pense qu'en cet instant, cet homme paralysé ne devait penser qu'à ça.
Et c'est bien normal, et je pense que chacun d'entre nous fait face tôt ou tard à des épreuves plus ou moins graves qui suscitent en nous des inquiétudes, des préoccupations, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes d'argent ou des problèmes relationnels. Jésus ne manque ni de compréhension ni de compassion envers les personnes souffrantes et préoccupées. Mais il veut attirer notre attention sur un problème souvent ignoré ou négligé, celui du péché.
Pouvez-vous donc définir ce problème et nous dire pourquoi il mérite que l'on s'y attarde?
Le péché, c'est cette tendance pernicieuse que nous avons tous à avoir des pensées méchantes, à prononcer des paroles blessantes et à pratiquer le mal. Personne ne peut affirmer qu'il est exempt de péché. La pratique du péché engendre des conséquences. Elle nous crée des ennuis dont nous pouvons souffrir. Et elle est aussi responsable d'ennuis que nous faisons subir aux autres. Cependant, la conséquence la plus grave du péché est celle-ci. Dieu, qui est juste, se trouve dans l'obligation de punir notre péché, à moins de nous pardonner. Le châtiment que mérite le péché est celui d'une relation rompue avec Dieu. De plus, le péché nous destine à la mort éternelle, à moins, rappelons-le, de recevoir le pardon de Dieu.
Et selon Jésus, être privé de la présence et de l'amitié de Dieu, maintenant et pour l'éternité, représente une condition encore plus préoccupante que toute autre calamité pouvant susciter inquiétude et angoisse.
Tout à fait. Retenons aujourd'hui cette leçon. Jésus est venu surtout et d'abord pour annoncer le pardon des péchés de la part de Dieu. Il veut que nous prenions conscience de la gravité de notre condition de pécheur, mais aussi il nous invite à nous tourner vers lui pour trouver son pardon.
Nous remercions Yann et Alain pour leur participation et nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique.
Nous nous pencherons sur le psaume 37. Hélène nous lira les versets 1 à 10. Ensuite, Sébastien nous fera part de ses réflexions.
Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. Car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir auront le pays comme possession.
Le psaume que nous venons de lire aborde avec sagesse la question suivante. Comment réagir lorsque nous sommes confrontés à des gens méchants? Malheureusement, nous rencontrerons, tôt ou tard, des personnes difficiles et embêtantes, des personnes qui cherchent à nous faire du mal ou encore des gens qui réussissent dans la vie tout simplement parce qu'ils pratiquent l'injustice. Lorsque nous avons affaire à de telles personnes et que nous subissons leur fausseté, nous ne pouvons alors qu'en être profondément troublés ou irrités, en colère ou envieux. Le mot hébreu utilisé par le psalmiste pour traduire l'irritation exprime aussi l'inquiétude et l'anxiété, comme l'agacement et l'énervement. Avouons-le, tous ces sentiments, si nous ne les maîtrisons pas, peuvent nous pousser à pratiquer le mal, car ils représentent des dangers et des tentations. Si, par exemple, nous envions la réussite de l'injustice ou du malhonnête, nous pouvons nous sentir enclins à suivre la même voie et à pratiquer l'injustice. La tentation existe aussi de rendre le mal à ceux qui nous ont offensés, ou de leur rendre la vie difficile, ou de nous emporter contre le méchant. Dans ce cas, la violence verbale ou physique, comme les projets de vengeance, peuvent alors nous dominer. L'auteur du psaume lu dénonce de telles réactions, de tels sentiments. Il évoque le risque de tomber dans un cercle vicieux de haine, d'amertume ou de violence. Mais comment dompter nos sentiments? Comment les neutraliser? On ne peut les contrôler comme on arrête l'eau qui coule d'un robinet, en le fermant. Comment donc surmonter les blessures, les épreuves et éviter tous les dangers que nos propres émotions engendrent? Tel est donc le sujet de ce psaume 37 que nous allons aborder lors de nos prochaines méditations bibliques. Ce psaume 37 évoque, en effet, plusieurs démarches à entreprendre toutes les fois que nous nous sentons envahir par des sentiments négatifs et destructeurs. Aujourd'hui, nous n'en ferons que la liste, mais lors des émissions suivantes, nous en parlerons plus en profondeur. Voilà donc ce que l'auteur du psaume nous encourage à faire. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien. En Dieu, mets ta joie. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en l'Éternel et il agira. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à l'Éternel. Si nous nous tournons vers Dieu et que nous lui exprimons nos craintes, si nous nous souvenons qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est juste et digne de confiance, alors il apaisera l'agitation de nos cœurs.
Merci Sébastien pour ces conseils si précieux. N'oubliez pas, cher ami auditeur, que Sébastien sera de retour parmi nous la prochaine fois pour nous parler davantage de la sagesse qui se dégage de ce psaume.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.